Bonjour et bienvenue sur Radio Saint-Afrique pour Astro-Lycée. Les lycéens et lycéennes du lycée Saint-Gabriel ont préparé pour vous une émission sur le thème de Mars. Adam, Alicia et Margot ont préparé des radiofictions pour vous. On commence avec Adam.
En 2474, quelque part sur Terre. C'est le soir. Dans cette petite piole de 4 mètres carrés qui était auparavant mon appartement, je trie. Enfin, trier est un grand mot. Je dois en réalité me débarrasser de tout. Le voyage sera exigeant, léger, et je ne pourrai pas me permettre d'emporter quoi que ce soit. Déjà que ce fut suffisamment dur de trouver un passeur qui puisse m'emmener de l'autre côté, il ne faudrait pas qu'il refuse de me prendre pour si peu. Je dois partir. La vie sur Terre finit par être impossible. On n'a plus de place pour nous, plus de travail ni d'argent. À cause de cette surpopulation, on n'a plus assez de nourriture et la pollution rendra bientôt l'atmosphère irrespirable. Vous n'y croyez pas ? Pourtant, c'est bel et bien la fin de la Terre, la planète bleue. Dans ma chemise, une carte en papier pilier, qui est d'ailleurs une antiquité, ainsi que une graine de café que j'ai promis de planter une fois là-haut. J'attrape la carte et la déplie devant moi à même le sol, puis je la contemple longuement. Mars, la Terre aux mille promesses, où tout ce que l'on souhaite, argent et bonheur, peut être exaucé, où la vie coule paisiblement et devient douce comme une caresse. Avec la nature luxuriante plantée par l'homme dans les biotopes et en même temps les espaces roses rouges, désertiques et infinis. C'est là que se déroulera l'avenir. Sur Terre, il n'y en a plus. Ici ne croupissent que les rejetons de notre ancienne civilisation, s'entassant dans ces villes mondes, immondes et géantes. Plus de nature que le goudron et la misère. Je relis ma carte et la remets dans ma chemise. Départ 6h30, demain. J'y ai mis toutes mes économies. Je n'emporterai que ce que j'ai sur moi. J'éteins la lumière et referme la porte de ma piole pour la dernière fois. Je ne me retourne pas. Je ne regrette rien car je n'ai rien à regretter ni à perdre. Je sors de mon appartement comme je le faisais tous les jours, sauf que cette fois, c'est la dernière.
Au même moment, Université de New York, Mars. Cours magistral de Madame Eriap. Comme vous avez pu le voir dans les actualités, les tensions diplomatiques entre la Terre et Mars se sont récemment aggravées. Et j'ai bien peur que cela ne mène à une guerre diplomatique entre nos deux planètes. Mais pour comprendre pourquoi nous avons pu en arriver là, il faut retourner fouiller dans l'histoire. Quand, en 2052, les premiers colons terriens se sont posés sur Mars, ils ont commencé par faire exactement comme il était prévu dans leur programme spatial. Création de la première base martienne, plantage des premiers végétaux sous un dôme, pour, à long terme, recréer le premier biotope terrestre, relevé de données scientifiques et géologiques quotidiens. Cependant, la première mission humaine révéla des données et des échantillons de roches uniques, que même les rovers envoyés par la Terre auparavant n'avaient pu détecter. En effet, lors de la mise en place du premier camp, un des astronautes a, sur un coup de pioche un peu trop fort, aperçu des roches étranges auparavant jamais vues. En les analysant, on se rendit vite compte qu'elles étaient en réalité composées d'un minerai unique, avec des atomes encore jamais vus sur la planète Terre. À l'époque, la découverte fit sensation dans le monde scientifique. Ce minerai chamboulant des lois de la physique que l'on pensait jusque-lors inviolables. On surnomma cette roche Martium. Après plusieurs autres analyses de la croûte martienne, on se rendit compte que la planète débordait de ce métal. Et il n'aura fallu que 27 ans pour que, en 2079, le scientifique John Smith découvre un moyen de transformer le martium en énergie. C'est à partir de là que commença la quatrième révolution industrielle, ce qui fut une aubaine pour la Terre qui venait de sortir non sans difficulté du pétrole après avoir épuisé les stocks dans la planète. C'est pour ça que, au tout début du 22e siècle, la Terre décida de créer une première ville-colonie destinée à extraire du martium, notre cher New York.
Quelques heures plus tard, dans l'espace. Me voilà dans la navette censée m'amener sur Mars. On est tous un peu entassés, car les passeurs voulaient prendre le plus de gens possible. Mais en même temps, je profite quelque part de la chance que j'ai eue d'être arrivé à temps. Un ticket pour Mars, ça a de la convoitise, et les passeurs n'ont même dû laisser des voyageurs sur Terre. En parlant de la navette, elle est par contre moins bien que je l'imaginais. Elle est déjà liée à une autre navette, mais surtout, elle fait un bruit de moteur très fort qui nous malmène les tympans. Vu son état, elle doit dater de plus de 100 ans. Pas très safe comme départ. Maintenant, j'ai du temps à tuer, environ 3 jours de voyage. Et dire qu'avant, cela prenait presque 3 mois pour en aller. Comme la navette est relativement vieille et qu'elle ne peut pas tourner sur elle-même pour simuler la gravité terrestre, on flotte. Je décide de me caler dans un coin et de déplier ma carte pour passer le temps. On peut y voir la grande surface rouge de la planète, ses reliefs, surtout les principales villes et les avant-postes miniers. Dans ma tête, tout le programme perso se recompose. D'abord, atterrissage à New York. Je resterai là-bas dans un premier temps pour faire des petits boulots, puis, avec mes économies, je me mettrai à côté d'un avant-poste minier où je créerai ma propre exploitation de martium. Ensuite, je me lève en sursautant. Tous les voyageurs font de même et regardent vers le hublot apeuré. Tout à coup, un grand crack se fait entendre. La foule à l'intérieur de la navette commence à paniquer, et c'est en regardant par le hublot que l'on comprend qu'est-ce qui se passe réellement. Sous nos yeux, la deuxième navette collée à la nôtre se décroche, sombrant dans le vide, froid et spatial, et avec elle ses passagers maintenant voués à une mort certaine. Je regarde ce spectacle avec effarement, pendant que sombre la navette. Cela me remet tout un coup les nerfs à rude épreuve, à moi et mes copassagers. Si je ne m'étais préparé à avoir des épreuves difficiles au cours de mon périple, je dois en revanche avouer que lorsque cela nous tombe dessus, il est plus difficile de s'y faire. Bien qu'il soit probable que tout le monde ici ait remercié leur Dieu pour ne pas avoir été dans l'autre navette, je ne peux m'empêcher de penser que mon rêve aurait pu m'échapper aussi facilement. Cela fait tout à coup prendre conscience de quelque chose. Nos rêves sont en réalité encore loin, et cela ne présageait que du mauvais, l'enfer ne faisait que commencer.
De retour à la conférence de Madame Heriep, Université de New York. C'est à partir de la création des premières colonies d'extraction de martium que débuta sur Terre un véritable âge d'or. Le martium était économiquement parlant une matière idéale, malgré le fait que cela pollue, car il pouvait créer une quantité phénoménale d'énergie à partir d'une très faible quantité de matière consommée. De ce fait, il devint rapidement rentable d'amener du martium directement par vaisseau cargo, car il fallait moins de minerais pour faire l'aller-retour que les vaisseaux ne pouvaient transporter, ce qui simplifia grandement la tâche. Avec une telle source d'énergie à leur disposition, les Terriens décidèrent qu'ils ne pouvaient se permettre de donner le monopole du marché du martium à un seul pays. C'est ainsi que, en 2138, se créa la première coalition internationale, unifiant à jamais tous les peuples de la Terre en un seul. À cette époque, on était enfin heureux, et désormais, tous les idéaux de paix dans le monde étaient enfin résolus. Plus de guerre, et une égalité pratiquement parfaite grâce au martium. Que demander de plus ? La fin de l'âge d'or terrestre commença au moment où les bases et villes martiennes de la coalition internationale commencèrent à se rebeller. Un peu comme ce fut le cas lorsque les États-Unis prirent leur indépendance de l'Angleterre, elles réclamaient un statut d'indépendance, en particulier parce qu'elles devaient payer des impôts qu'elles considéraient comme injustes. La rébellion fut dans un premier temps maîtrisée, jusqu'à ce que George Washington, un ancien général de la coalition, proclama officiellement l'indépendance des colonies martiennes. Cela fut le début de la fin de la prospérité sur Terre. Même si la Terre pouvait encore acheter du martium à Mars, elle ne pouvait maintenant que le faire en le troquant avec des vivres pour Mars. Si la situation parut équitable entre les deux puissances au début, cela se dégrada par la suite. Mars savait qu'il était désormais indispensable pour la Terre d'avoir du martium en grande quantité. Aussi, elle a vite, par intérêt, commencé à faire du chantage à la Terre et à utiliser l'argument du martium à tout bout de champ. La Terre était obligée d'accepter leurs conditions, car toutes leurs installations étaient dépendantes du martium. C'est comme ça que Mars prit vite l'ascendant sur les Terriens.
Et qu'est-ce qui se passera si un jour une guerre éclate entre Terre et Mars ?
Il est possible que Mars crée un embargo sur le martium, et dans ce cas, c'est pratiquement gagné pour la planète rouge.
Porte de New Haven à New York sur Mars, 3 jours plus tard. Nous voilà enfin arrivés sur notre Terre promise. Ouverture tant attendue du sas, la lumière rougeâtre du sol martien nous éclaire. Premier contact avec les autochtones, des militaires armés. On nous emmène de force dans une camionnette qui nous amène ensuite dans un camp délabré. On nous inspecte, on nous surveille comme des animaux. On nous force à signer des papiers qu'on n'a pas le temps de lire. On nous parque dans une grande pièce sombre, éclairée par des petits soupirails sur les côtés. Un de mes côtés de nu se lève et scande avec ferveur. C'est la première fois du périple que j'ai réellement peur. Le temps passe, avec rien pour nous occuper. Je décide de prendre ma graine et de la serrer pour me rappeler de ma promesse. Une fois sorti, ce sera la fin de cet enfer, et la vie coulera comme un long fleuve tranquille. Une fois dehors, je pourrai acheter ma maison et y replanter ma graine, pour recréer sur ma nouvelle planète de nouvelles racines. Tout à coup, on entend toquer à la porte métallique de notre bagne, ce qui me sort de ma torpeur. un militaire se montre et nous demande de le suivre. En sortant, on aperçoit autour de nous des barrières métalliques retenant une foule en colère. On nous hue dessus, on nous insulte, on nous crie de rentrer chez nous. Un de mes collègues tenus demande aux militaires où est-ce qu'il nous emmène. Il se retourne à moitié et dit, avec un rictus aux lèvres, « Ce n'est pourtant pas clair. On vous renvoie au bercail, dans votre ramassis de miteux sur terre. » En entendant cela, un mécanisme dans mon corps jusqu'alors inconnu se déchaîna. Si ce qu'il disait était la vérité, alors j'étais bel et bien en train de perdre mon seul et unique rêve. Je ne pouvais me résoudre à l'abandonner. C'était la seule raison pour laquelle j'avais fait tout ce périple. Il était hors de question pour moi de tout perdre après tant d'efforts. Je m'arrête 2 secondes et attrape ma graine dans le creux de la main. Tout à coup, une énergie que je croyais encore inimaginable pour un être humain commença à déborder. Je me détournai alors de la file et fis un pas. Puis 2, 3, puis me mis à courir et à enjamber la barrière. Tout en serrant plus fort ma graine, j'enjambe la barrière et me dirige maintenant seul vers les espaces rouges infinis. Mars, me voilà. Rien ne m'arrête pour aller jusqu'à toi. Rien ne pourra m'en empêcher. Rien ne... Je titube avant de tomber à terre. Pas tellement de douleur, malgré le sang qui coule. Surtout, une terrible amertume. Je prends la force de lever les yeux et j'aperçois, en face, ma graine. Au moins, j'aurais tenu ma promesse.
Université de New York, cours de Madame Heriep. Comme vous avez pu le voir dans les actualités, beaucoup de terriens ont tenté d'immigrer clandestinement pour échapper à la misère qui règne sur leur planète maintenant. Heureusement, les forces de sécurité de notre nation les renvoient chez eux dès qu'ils le peuvent. Mars ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
Madame, est-ce que vous pouvez supposer de ce qui se passera le jour où Mars aura épuisé toutes ses réserves ?
Il est probable que l'on finisse alors par quitter la planète et recommencer la même chose, comme on l'a fait avec la Terre. De toute manière, l'histoire est destinée à se répéter. Et nous passons à présent à la radiofiction créée par Alicia et Margot. Flash spécial. Bonjour mesdames et messieurs, nous intervenons dans votre programme pour vous informer du départ imminent de la sonde qui se posera par la suite sur Mars. Cet événement sera partagé avec vous en direct sur Canal Astro Club. Donc, nous voilà en direct de la base spatiale où nous sommes accueillis par nos 2 scientifiques préférés. Allons leur poser quelques questions. Bonjour mesdames, alors la sonde est-elle prête à partir ?
Oh oui, elle est prête.
Plus que prête, oui. C'est plutôt à nous de nous demander, en fin de compte, si nous sommes prêtes à laisser partir notre bébé à l'aventure toute seule.
Que croyez-vous trouver là-bas ?
De la terre rouge.
Même dans un événement pareil, la joie est au rendez-vous. C'est génial.
Oui, elle l'est, mais plus sérieusement, nous espérons vraiment obtenir des analyses satisfaisantes pour savoir si oui ou non nous pourrions envisager de vivre sur cette planète.
Oui, ce serait génial. Malgré cette ambiance de fête, et arrêtez-moi si je me trompe, il y a bien eu quelques manifestations contre ce projet. Pourquoi ?
Vous ne vous trompez pas.
Désolée, mais permets-moi de te couper. Bien sûr qu'il y en a eu, à cause du coût excessif du projet, et c'est normal. On ne va pas envoyer un bout de plastique dans l'espace, donc forcément, ça coûte de l'argent. Mais le pire dans tout ça, c'est que les gens se plaignent que c'est cher. Mais s'ils prenaient soin de notre planète, on n'aurait pas besoin de dépenser cet argent, justement pour trouver une autre planète habitable. Je trouve ça quand même assez fou de penser que c'est de l'argent jeté par la fenêtre.
J'aurais pas dit mieux.
Très bien répondu. Merci pour votre temps que vous nous avez accordé toutes les 2. Alors maintenant, il est temps pour votre bébé d'aller rejoindre les confins de l'univers.
Avec plaisir.
Suivez bien notre aventure. C'est parti, allons la voir décoller.
C'est fou, un bout de nous s'en va dans l'espace.
Tellement excitant.
Après plusieurs mois de voyage, la sonde venait enfin de se poser sur cette planète. Commençant son exploration, elle parcourait les nombreux cratères qui ornaient la surface afin d'arriver à son but, c'est-à-dire de trouver des signes pouvant permettre une vie sur cette planète. Alors que la sonde continuait son long parcours, elle subit un premier choc qui la fit trembler, mais sans l'endommager. Puis quelques secondes après, elle se fit basculer violemment sur le côté, se retrouvant ainsi immobilisée. Sur Terre, l'agitation est à son comble. Les chercheurs ne comprennent pas ce qui se passe, ni ce qui aurait pu la retourner, et essaye de résoudre le problème, mais rien n'y fait.
Flash spécial. Bonjour mesdames et messieurs. Après maintenant quelques mois à attendre des nouvelles de la sonde qui a été envoyée sur Mars, nous avons enfin pu avoir quelques informations pour les moins inquiétantes. Alors, je vous invite à me suivre. Nous allons rejoindre nos deux chercheuses. Allez, allons-y. Fabrice, coupe la caméra. N'oublie pas que le labo est secret.
En entrant dans le laboratoire, la journaliste assiste à une scène des plus comiques entre les deux scientifiques.
Mais tu ne serais pas allé boire ton café, on aurait pu savoir ce qui a renversé mon bébé.
Alors déjà, n'oublie pas que cette sonde est aussi mon bébé. Et puis si moi j'étais au café, toi tu étais où, hein? À roucouler avec ton mécanicien, là?
Déjà, c'est pas un mécanicien, comme tu le dis. Mais un ingénieur en informatique.
Ouais, ben c'est pareil.
Alors pas du tout, il y a une grande différence entre...
Les deux scientifiques se tournèrent en même temps vers la journaliste.
Oh, bonjour madame la journaliste. Vous venez pour le rapport de la mission ?
Oh punaise, la honte ! J'aurais tellement honte si j'étais toi. Tous les spectateurs savent que tu as un creux sur les mécaniciens.
Mais chut, déjà la caméra ne tournait pas, donc personne ne sait.
Margot se tourne vers le caméraman et lui dit.
Hein, elle ne tournait pas, rassurez-moi, vous ne m'avez pas dans la boîte. Ouf !
Zut, ça aurait été drôle quand même.
Les filles, pouvons-nous revenir à notre rapport s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr.
Fabrice, commence à enregistrer s'il te plaît. D'après plusieurs rumeurs qui courent partout, il paraît que vous avez perdu la communication entre la Terre et Mars. Est-ce vrai?
Malheureusement, oui. Nous avons perdu tout contact avec celle-ci après qu'elle se soit faite renverser. Pour l'instant, nous ne pouvons pas en savoir plus. Nos ingénieurs se penchent sur le problème, mais c'est compliqué de réparer une sonde qui se situe à 76 millions de kilomètres de notre Terre.
Comment pouvez-vous expliquer cette chute?
Normalement, la sonde était construite avec des matériaux qui empêchaient la sonde de tomber ou de se retourner. Alors ce phénomène est loin d'être normal.
Je sens que vous avez une hypothèse. Vous voulez bien la partager?
Bien sûr. Moi, je pense qu'elle s'est faite renverser par des êtres vivants. Un coup de pied.
N'importe quoi. Elle a toujours eu beaucoup d'imagination. Excusez-la.
Mais si, imagine, le mythe des Martiens existe. Vraiment. Je suis sûre, ils ont récupéré notre sonde et... Oh, ils vont la décortiquer et la pirater pour ensuite rentrer dans nos données hyper confidentielles. Vite, appelle le patron qui bloque toutes les entrées dans le serveur.
Arrête de t'inquiéter pour rien, sérieux. C'est quoi ça, Alicia?
Des données venant de la sonde.
Fabrice, viens filmer ça. Alors, je ne comprends rien du tout et nos téléspectateurs, je pense, non plus ne comprennent pas. Pouvez-vous nous expliquer?
Vas-y Margot, explique-leur, je vais essayer de récupérer le code de la sonde pour qu'on puisse avoir des données plus précises.
Ok, venez avec moi, nous allons aller dans mon bureau.
On vous suit. Fabrice, coupe la caméra.
La journaliste, le caméraman et Margot entrent dans le bureau.
Je vous en prie, asseyez-vous.
Merci. Fabrice, allez, c'est parti. 3, 2, 1, action !
Alors, que voulez-vous savoir ?
On veut comprendre ce qui se passe. Votre collègue aurait-elle raison sur la présence d'êtres vivants sur cette planète ?
En effet, cet événement concrétise son hypothèse, mais néanmoins, il nous manque beaucoup d'informations pour en avoir le cœur net.
Elle parlait de données très confidentielles. Avez-vous des choses à cacher ?
Désolée, je pense qu'on s'égare du sujet initial. Et puis, je ne suis pas tenue vous informer de cela.
Se pourrait-il qu'il...
La journaliste fut coupée par Alicia.
Margot, viens, dépêche-toi, viens voir ça.
Margot, la journaliste et le caméraman courent vers Alicia et découvrent des images en glace et le sang. Les images qui apparaissent à l'écran de contrôle du labo parviennent des capteurs de chaleur de la sonde. Et elles montrent une source de chaleur en face de la sonde. On distingue nettement une silhouette. Celle-ci est grande avec de longues jambes, puis un torse très fin, puis deux bras. Non, il n'y en a quatre.
T'as vu ça, Margot ? Quatre bras, c'est vraiment génial !
Chacun ses délires, ça fait un peu flipper quand même.
Oh, regarde, regarde ses longs doigts. Attends, mais il s'approche de la caméra. Oula, ça sent pas bon tout ça.
Effectivement, comme Alicia le dit, le pseudo-martien s'approche dangereusement de la caméra thermique de la sonde. Il approche sa tête et tout d'un coup, les images se coupent. Mais pire, une coupure de courant s'abat sur le laboratoire.
Mesdames et messieurs, je vous retrouve accompagnée d'une bougie pour vous informer un peu plus sur la situation. Des informations sont encore à concrétiser, mais à l'heure d'aujourd'hui, grâce à la sonde envoyée sur Mars, nous avons pu faire une découverte des plus étranges. Attachez vos ceintures et écoutez bien. Ce n'est pas une fake news, loin de là, je l'ai vu de mes propres yeux. La sonde qui avait été renversée lors de sa mission nous a envoyé des images grâce à sa caméra thermique. Nous avons décelé des silhouettes inquiétantes. Mais peut-être bien que les Martiens existent réellement après cette découverte, une coupure de courant nous a prise de court. Nos deux scientifiques essayent de remédier à cela. Je reviendrai vers vous quand j'en saurai davantage.
Pendant que la journaliste prévenait les téléspectateurs des derniers événements, les deux scientifiques de leur côté essayent de remettre le courant le plus vite possible. Mais l'ambiance était très tendue. Margot commence à perdre patience.
Alicia, quand je te dis appuie, tu appuies sur l'interrupteur, c'est clair ?
Oui, c'est clair.
Appuie ! Alicia appuie sur l'interrupteur, mais rien ne se passe. Margot, pendant ce temps, perd patience et tape à coups de poing sur le tableau de contrôle et comme par magie, le courant se remet en route.
Ah, enfin, dis-moi que tu l'as pas fait exprès.
On a du talent ou on n'en a pas.
Ah, ça va les filles.
Allez, assez rigolé, essaye de programmer le retour maison de la sonde. On a pris assez de risques en la laissant là-bas.
C'est comme si c'était fait.
Alicia se mit directement au travail, sous les yeux de la journaliste. Les programmes et les faits et gestes des deux scientifiques ressemblaient à du chinois. Tandis qu'Alicia se noyait dans les tonnes de codes, Margot préparait la trajectoire de l'atterrissage de la sonde. Elle contactait également tous les professionnels en charge des atterrissages pour que tout soit prêt à temps.